est une rediffusion. Accent d'Europe, Léa Lisa Westerhoff.
Bonjour, l'Europe est-elle capable de lutter contre les fake news et comment le faire? L'enjeu est de taille. Comme partout dans le monde, la confiance dans les médias se dégrade. Dans les jeunes démocraties, l'indépendance des médias est souvent très fragile. La presse, dépendante des ressources financières de pouvoirs économiques mais aussi politiques. Exemple, dans la jeune République de Serbie, l'utilisation de fake news, de fausses informations par les médias proches du pouvoir y est devenue quasi quotidienne, avec de véritables campagnes de désinformation. C'est le reportage à Belgrade de Louis Seyé.
Ça a commencé avec des fausses informations, puis des attaques contre les opposants politiques. Maintenant, tout le monde, des professeurs d'université, des étudiants, des experts, quiconque s'oppose au gouvernement devient une cible de la propagande des médias de masse et de leurs discours de haine, ici en Serbie.
Être directement pris à partie par le chef d'État, Aleksandar Djordjevic, commence à s'y habituer. Il est l'un des journalistes du réseau d'investigation Balkan Insight. Depuis qu'Aleksandar Vučić est arrivé au pouvoir il y a 5 ans, il constate la dégradation continue du paysage médiatique serbe.
90% des médias d'information utilisent une seule source d'information. Vous pouvez voir, ils disent tous la même chose, ils utilisent tous les mêmes phrases, qui sont souvent de fausses informations, des discours de haine. Mais c'est évident que ces infos viennent toutes d'une seule même source, le parti qui est au pouvoir.
Une mainmise sur les médias, synonyme de pouvoir absolu pour le parti d'Aleksandar Vučić. Grâce notamment aux aides à la presse et au contrôle des ressources publicitaires, le président dispose de relais puissants avec les principales télévisions et tabloïdes du pays. L'opposition est inaudible. Aleksandar Djordjevic.
C'est d'une efficacité presque mathématique. Le temps que vous avez dans les médias nationaux correspond presque au pourcentage des résultats électoraux. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le parti au pouvoir obtient 55% des votes aux élections. Donc, ça détruit la démocratie.
Les mécanismes de la propagande, Aleksandar Vučić les connaît parfaitement. À la fin des années 90, il était en effet ministre de l'information du dirigeant d'extrême droite, Slobodan Milošević. Marija Vučić est l'une de ces courageuses journalistes qui décryptent les mensonges des médias aux ordres.
Ici en Serbie, les médias mainstream, en fait tous les journaux et toutes les télévisions, produisent des fake news en faveur du régime. Les fake news ici en Serbie, c'est presque un projet d'État.
Marija Vučić travaille pour KRIK, le CRI en serbe. KRIK est l'un des rares médias indépendants qui dévoile régulièrement les liens entre les réseaux criminels et le pouvoir serbe. Depuis 2 ans, elle décrypte le fonctionnement des tabloïds proches du pouvoir dans le cadre du projet Raskrikavanje, ou révélateur en français.
Ils utilisent toujours les mêmes types de récits. Par exemple, les chefs de l'opposition sont toujours présentés comme des misérables, des voleurs, etc. Et de l'autre côté, les politiciens du gouvernement sont toujours présentés de façon positive. Ils sont honnêtes. Il n'y a pas de traitement objectif. La situation politique ici en Serbie est toujours présentée en noir et blanc.
Les médias proches du pouvoir ne font pas que mentir. Ces jours-ci, une enquête du média en ligne Balkan Insight révélait que le père du ministre de l'Intérieur était mêlé à des ventes d'armes illégales à l'Arabie Saoudite, des armes utilisées dans le conflit au Yémen. Mais dans la plupart des médias proches du pouvoir, rien.
Ils n'ont pas maquillé les choses ni menti, mais ils ont simplement fait passer tout ça sous le tapis. Et c'est aussi une manière de fausser les choses. Donc de temps en temps, à Raskrikavanje, nous rappelons à notre public « Tiens, les médias ne vous ont pas parlé de ça ».
Pas facile de dévoiler les faits au grand public tant l'accès aux grands médias est verrouillé par le pouvoir. Milica Šaric travaille pour le Centre pour le journalisme d'investigation. Elle s'énerve de ne jamais pouvoir contester les intox de la présidence serbe dans ses médias.
Le président dit, vous pouvez imaginer, ils disent que nous sommes des menteurs et des tricheurs et que nous avons fait ça, bien sûr, ce n'est pas vrai. Et ils présentent leur version de l'histoire. Et nous n'avons jamais l'occasion de le contrer avec des faits.
Le travail d'investigation de Milica Šaric a été couronné par un prestigieux prix européen. Pourtant, cela ne suffit pas à convaincre. Pire, dans ce climat hostile pour les esprits indépendants, c'est désormais l'intégrité physique des journalistes qui est menacée, comme le dénonce Reporters sans frontières. Milica Šaric.
Les gens, dont mon grand-père, pensent que nous sommes des mercenaires étrangers, des gens qui sont payés pour faire de mauvaises choses contre notre pays. Pour être honnête, ma mère pense que je suis en guerre. Il y a cette peur parmi nous et notre famille que quelque chose puisse nous arriver. Et nous devons vivre avec ça chaque jour.
Dans le classement 2018 de RSF, la Serbie a chuté de 14 places et se classe 90e sur 180 pays. À l'approche des élections législatives prévues au printemps prochain, la machine à fake news du pouvoir serbe ne devrait pas ralentir.
En Pologne, les ultra-conservateurs populistes du parti PiS, Droit et Justice, viennent de remporter les élections législatives. Au pouvoir depuis 2015, cette victoire, ils l'ont obtenue en partie grâce aux médias publics. Dans ce pays aussi, manipulation et désinformation sont de mise, avec une télévision publique totalement reprise en main il y a 4 ans par le parti au pouvoir, Thomas Giraudot.
Fin septembre, 2 semaines avant le scrutin, la télévision publique a répété à longueur de journaux que l'opposition au PiS supprimerait l'allocation familiale universelle 500+, si elle remportait les élections. Une fausse information, tant l'opposition, elle, a promis de ne pas revenir sur les acquis sociaux. A l'inverse, la télévision publique a très peu parlé du scandale qui entoure le président de la Cour des comptes polonaise. Cet homme, ancien ministre des Finances du parti au pouvoir, aurait loué un appartement de Cracovie à des proxénètes qui l'ont transformé en hôtel de passe. 3 jours avant l'élection, la télévision publique a aussi diffusé à 1 heure de grande écoute un documentaire incendiaire sur les LGBT, manipulant des images de marche des fiertés en Pologne et à l'étranger, sans jamais préciser la ville où elles ont été tournées, laissant entendre que des vidéos pornographiques seraient montrées aux enfants dans des cours d'éducation sexuelle animés par des associations LGBT, ce qui est faux. Objectif, favoriser le seul parti à s'être ouvertement positionné contre tout cela, le PiS. Cette année, l'ODIHR, le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE, une organisation internationale reconnue, a particulièrement scruté le rôle des médias dans la campagne électorale en Pologne. Et le constat du chef de la mission, Jan Petersen, est implacable.
Même s'ils sont pluralistes, les médias polonais sont clairement divisés selon des idéologies, des courants politiques. L'orientation éditoriale des médias, particulièrement ceux de la télévision publique, et l'absence de contrôle, de surveillance active, ont clairement joué un rôle sur la possibilité pour les électeurs de faire un choix éclairé.
Résultat, dans son rapport préliminaire, l'ODIHR écrit que la télévision publique n'a pas respecté ses obligations légales. Une information indépendante, pluraliste, impartiale.
Le vrai, le faux, se mélange, plus c'est gros, plus j'y crois. Il y en a beaucoup que ça arrange, qu'on gomme n'importe quoi, la veine s'emballe et tous les mots deviennent des balles. Il faut que je m'échappe de toutes ces fake news.
Code de bonne pratique pour les médias en ligne, amende, que peut faire l'Europe face à cette problématique transcontinentale des fake news? Depuis 2015, la Commission a créé un groupe de travail sur le sujet. Plus de 6500 fausses informations ont été traitées, mais la structure manque de moyens. Et surtout, est-ce bien là le rôle de l'Europe? Les explications de Lex Milota.
C'est en mars 2015 que la Commission européenne a lancé un groupe de travail contre les fausses nouvelles. À l'époque, il s'agit principalement de viser les campagnes de désinformation de la Russie. Son budget, 1 million d'euros en 2018, 3 millions pour 2019, qui fut une année électorale européenne. Depuis 2015, plus de 6500 fausses informations ont ainsi été traitées par cette cellule. Elles concernent notamment l'Ukraine, mais aussi Greta Thunberg, la jeune militante écologiste, vue comme le prophète d'un nouveau totalitarisme par la télévision russe, par exemple. Mais selon certains observateurs, la démarche de la cellule anti-fake news peut être mal prise, car c'est une vision officielle. Les citoyens peuvent y voir une sorte de censure, mais aussi de la manipulation et des complots. Car s'il y a propagande, qui dit la vérité ? La Commission européenne se défend de proposer une vision officielle de l'Union européenne. Il ne s'agit pas de faire de la contre-propagande, peut-on lire sur le site de la Commission. Nous nous basons sur des articles publiés par la presse. La lutte contre les fausses nouvelles ne peut se faire que via des ONG, la société civile et le secteur privé, explique un analyste. L'exécutif européen a aussi fait signer un code de bonne pratique à Facebook, Google et Twitter. Pas assez contraignant, déplore l'organisation Avaaz. En mars dernier, enfin, la Commission a mis en place un système d'alerte rapide. Les États membres doivent partager en temps réel leurs informations sur des tentatives d'acteurs étrangers pour manipuler le débat démocratique. Un plan de 12 mois qui sera évalué prochainement.
Une fausse rumeur circule si vite sur la toile, mais aussi dans les couloirs d'une école. Être capable de distinguer une vraie et une fausse information, c'est tout l'enjeu d'un nouveau cours que l'Angleterre compte ajouter à son cursus scolaire. À partir de la rentrée prochaine, les écoles vont donc enseigner l'art de faire la différence entre le vrai et le faux, Marie Billon.
C'est un problème depuis toujours, mais aujourd'hui, avec l'information de masse, via les réseaux sociaux notamment, les enfants sont encore plus exposés à des histoires douteuses. Des histoires bien plus graves que ce qui se raconte dans les cours de récréation, car elles sont véhiculées par des adultes. C'est la popularité du mouvement anti-vaccin qui a persuadé le gouvernement d'agir. Ces messages qui font croire aux parents que vacciner son enfant peut être dangereux. Londres envisage d'interdire aux élèves non vaccinés de venir à l'école, mais avant de s'y résoudre, il y a la volonté d'attaquer le problème à sa racine pour que les jeunes gens d'aujourd'hui ne deviennent pas les anti-vaccins de demain. Pendant toute leur scolarité, les enfants vont donc recevoir une éducation à la fake news adaptée à leur âge. D'abord, on leur apprendra ce qu'est une fausse information, en soulignant bien ce qui est sournois et que ces histoires ne sont pas toujours incroyables. La plupart s'appuient sur une base crédible pour ensuite se départir de la vérité à cause d'un manque de vérification, d'une exagération ou bien d'un mensonge, tout simplement. Les jeunes apprendront donc à reconnaître les techniques classiques de persuasion et de manipulation, mais pas seulement. Pour se méfier de ses propres réflexes, on leur apprendra ce qu'est la confirmation par le préjugé, quand on n'entend que ce qu'on veut entendre, ce qui peut être le premier pas dans la propagation d'une fake news. Aiguiser le jugement des jeunes est au cœur de ce processus, donc. Savoir évaluer la qualité des informations qu'ils trouvent en ligne, en fonction de leur origine et de leur source notamment, est aussi au programme. Ce qu'il faut, c'est qu'ils ne partent pas du principe que ce qui est en ligne, possiblement bien présenté, est parole d'évangile. Vérifier sur le site du système de santé national, par exemple, une information concernant la santé doit être un réflexe. Un enfant perplexe devant un contenu doit savoir vers qui se tourner s'il ne parvient pas à distinguer le vrai du faux et potentiellement pour garantir sa sécurité.
La vici zeta em parlava de bon matí al portal.
En Espagne, l'exhumation du dictateur Franco est imminente. Depuis vendredi, le mausolée où est enterré le Caudillo, à 60 km de Madrid, est fermé au public. L'exhumation du dictateur mort dans son lit en 75 se prépare. Elle devrait avoir lieu avant le 25 octobre. Mais ce transfert de la dépouille de Franco divise les Espagnols. Si pour les nostalgiques du franquisme, ouvrir ce tombeau est une profanation, les associations des familles des victimes républicaines, elles, voudraient aller plus loin. Le reportage de Diane Cambon.
Pour la première fois depuis 40 ans, Ángel Gómez ne va pas se rendre à la messe dominicale du Valle de los Caídos. Le gigantesque mausolée est fermé au public afin de préparer le transfert du cercueil de Franco qui rejoindra en hélicoptère le tombeau familial près de Madrid d'ici quelques jours. Ce nostalgique franquiste de 70 ans ne cache pas sa colère contre le gouvernement du socialiste Pedro Sánchez qui a donné son feu vert à l'exhumation. Devant l'église de San Borja, située dans le très chic quartier madrilène de Salamanca, et qui à plusieurs reprises a célébré des messes en l'honneur de Franco, il exulte.
Ce qu'ils vont faire à Franco, c'est une profanation d'un lieu sacré, c'est une profanation d'État, un crime d'État même. Comment sortir Franco de là? Les morts, il faut les laisser en paix. Et qui a gagné la guerre? C'est lui, ce ne sont pas les autres.
Les autres, ce sont les républicains, les grands perdants de la guerre civile et dont les familles réclament aujourd'hui, 44 ans après la mort du dictateur, justice et réparation. Sylvia Navarro est la présidente de l'Association des familles pour l'exhumation des républicains du Valle de los Caídos. Avec 9 autres familles, elle a déposé un recours auprès de la justice pour sortir son aïeul du mausolée. Franc-maçon, socialiste et progressiste, il a été fusillé en 1936 à 200 km de Madrid, mais sa dépouille a été transférée dans le mausolée avec 10 000 autres corps de républicains lors de la construction de la basilique au nom de la réconciliation. Sylvia espère que l'exhumation de Franco débloque la situation.
Je crois que l'exhumation de Franco est nécessaire pour notre démocratie. On ne pouvait pas continuer à tolérer qu'il existe un mausolée en l'honneur d'un dictateur. Mais ce n'est pas suffisant. Si on veut vraiment réparer l'honneur des victimes républicaines, on doit toutes les exhumer. Car outre le fait qu'elles ont été assassinées, jamais leurs familles n'ont donné leur autorisation pour les enterrer au Valle de los Caídos.
La bataille des familles des républicains pour retrouver le corps de leurs proches jetés dans les fosses communes divise encore l'Espagne. Les familles des victimes aspirent à enterrer leurs proches dignement, mais la droite modérée, elle, préfère ne pas réveiller les vieux démons. Pour José Luis, un quadragénaire qui vient chaque dimanche à la messe de l'église San Borja, l'exhumation de Franco reste une erreur.
Je n'apprécie pas qu'ils essaient de réécrire l'histoire sans aucun fondement. Tout cela contribue à détruire une époque de réconciliation entre tous les Espagnols, qui fut celle de la transition, et je crois qu'il faut laisser les morts reposer en paix. Cela fait partie de l'histoire, et Franco, eh bien, le temps le jugera.
À moins d'un mois des élections législatives, l'exhumation de Franco pourrait bien entrer dans le débat politique. Seul le parti d'extrême droite, Vox, dont les sondages pronostiquent une hausse des voix, ose haut et fort condamner cette initiative.
Et c'est l'heure de notre chronique en un mot intraduisible, voire imprononçable. Aujourd'hui, direction les Pays-Bas avec l'expression « onvoldoende reinformiert », insuffisamment informé, une accusation qui peut vous coûter très cher. Les explications d'Antoine Moutot.
Onvoldoende reinformiert, pas assez informé, pas assez renseigné, l'expression ici aux Pays-Bas revient très régulièrement, surtout dans les médias.
Monsieur Wiebes, vous avez été ministre des Finances. Sur cette affaire de fraude, le Parlement n'a pas été informé. Comment ça a pu se passer ainsi?
Et en général, quand un ministre, un maire, un responsable d'un grand organisme est accusé d'avoir onvoldoende reinformiert, eh bien ça sent le roussi pour lui. À la haie, à la sortie du Parlement, Léonie Sazia, députée de 50+, le parti des seniors, discute avec deux assistantes parlementaires. Voici sa définition.
Quand on n'est pas assez informé, quand il y a quelqu'un qui a des informations et qui ne dit rien, ça arrive de temps en temps, bien sûr, oui.
Et quand ça arrive, la plupart du temps, la classe politique est dans tous ses états et une partie des Néerlandais est outrée. Surtout quand ça se passe à un haut niveau, notamment dans le cas des ministres.
C'est très grave parce que les ministres, ils doivent informer. Alors pas seulement attendre si on demande, mais ils doivent activement informer les membres du Parlement.
Aux Pays-Bas, la limite entre manque de transparence, omettre d'informer en amont et mentir est parfois très fine. Exemple, il y a encore quelques semaines, Femke Halsema, la maire écologiste d'Amsterdam, a failli en faire les frais. Son fils de 15 ans a été appréhendé par la police avec des amis après être entré dans un bateau sur un canal avec une arme d'abord dite factice, mais qui s'avérera plus tard être un véritable revolver. Péché quasi mortel ici, elle n'avait pas informé le conseil municipal de cet incident. Pire encore, elle aurait tenté d'étouffer l'affaire. Mais cette obsession de l'information a aussi un travers. Par peur d'être accusé d'avoir onvoldoende reinformiert, le gouvernement informe parfois beaucoup, même beaucoup trop. C'est en tout cas de temps en temps le sentiment de Léonie Sazia.
Tant d'informations, tant de papiers, alors tu sais plus quoi lire. Mais quand même, c'est important.
Ce concept onvoldoende reinformiert, ou son contraire, voldoende reinformiert, on le retrouve partout, dans l'administration, le monde de l'entreprise, ou encore les services après-vente. Un concept tellement néerlandais qu'il a parfois de quoi décontenancer les étrangers et nouveaux arrivants. Philippe est portugais, il vit aux Pays-Bas depuis près de 10 ans, et pour lui, voldoende reinformiert, c'est parfois un véritable cauchemar.
Ce qui peut t'étonner comme étranger aux Pays-Bas, quand tu reçois une lettre commerciale d'un fournisseur ou qui que ce soit, on répond à ton argument et puis non, on ne va pas vous rembourser et j'espère vous avoir suffisamment informé. Donc, les Hollandais, ils considèrent que c'est une expression très polie, mais pour nous, en fait, quand on lit ça, c'est énorme, c'est-à-dire c'est très unilatéral. Ils disent « c'est moi qui parle, c'est toi qui écoute, et j'espère que tu as bien compris, et donc tu vas pas toucher un sou ».
Pour résumer, lorsqu'après une réclamation auprès d'un service, on vous dit que vous avez été suffisamment informé, c'est que vous n'aurez pas gain de cause, discussion close. En revanche, si vous n'avez pas suffisamment informé, vous risquez votre poste.
Accent d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Françoise Grelot. Pour nous écouter, nous retrouver, rendez-vous sur RFI.fr. À demain.